Bonjour, nous voici donc à aborder la 12e et avant-dernière leçon de ce cours sur Norinaga, le Genji et le Kojiki. Et je l'ai intitulé, vous allez voir pourquoi, les singuliers poèmes de Norinaga. Nous allons encore rester sur la voie, malheureusement, mais c'est un terme si fondamental et si lié à la position du Genji dans la pensée de Norinaga qu'il faut rester dessus. Donc, cette avant-dernière leçon est la dernière consacrée à un texte précis de Norinaga, puisque la 13e sera une conclusion générale. Dans l'œuvre immense de notre auteur, dans laquelle les passages que nous pourrions qualifier de doctrinaux ou théoriques sont relativement peu nombreux, comme je vous l'ai dit, puisqu'il consacre l'essentiel de ses travaux à la philologie et à la mythologie, l'une étayant l'autre, il y a, nous l'avons souligné, il y a un grand nombre de répétitions, ce qui oblige à faire des synthèses dont on pourra parfois critiquer la pertinence. Mais comme nous l'avions annoncé au début de ce cours, il est cependant une source importante pour connaître la pensée de Norinaga qu'il ne faut pas négliger, ce sont ses poèmes. Ce ne sera pas lui faire injure que de dire que la postérité s'est gardée de surestimer son œuvre poétique. Il n'est pas le seul, du reste, à rester somme toute méconnu parmi les nombreux kajin, les auteurs de waka, de la fin d'Edo. Nous avons évoqué le recueil complet de ses poèmes, le Suzuya no Shu, qui contient avant tout des waka, à côté d'une variété d'autres compositions archaïsantes. Mais l'époque, l'époque d'Edo, la fin d'Edo, était plutôt au haïku, d'une part, et au kanshi, les poèmes en chinois, de l'autre. Et les poètes de waka n'ont guère bénéficié de l'indulgence ni de la notoriété de l'époque, à leur époque, donc, ni aux suivantes. Nous n'aurons pas le temps non plus de nous y arrêter. Mais il semble autrement intéressant de consacrer cette leçon à un recueil poétique, d'une certaine façon, enfin en tout cas formellement, que nous avons aussi mentionné en promettant de nous y arrêter plus longtemps. Il s'agit du Tamaboko ou Tamahoko Hyakushu, la centurie des halbardes de jade ou des halbardes précieuses. Nous avons déjà dit que cette centurie poétique, c'est-à-dire, je prends centurie au sens des centuries de Nostradamus, n'est-ce pas, c'est-à-dire les recueils de 100 poèmes, nous avons déjà dit que cette centurie poétique a été composée à peu près à la même époque que le Tamakushige ou le précieux étui à peigne sur lequel nous nous sommes arrêtés à la leçon précédente, donc vers 1786 ou 1787. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une œuvre de la dernière époque de sa vie, et la forme même qu'il a choisie en fait aussi une sorte de compendium poétique de ses idées. Nous considérerons ici la centurie à proprement parler, sans tenir compte de l'appendice de 32 poèmes supplémentaires, c'est Amari Uta, qui est dans cette centurie, donc il y aurait été plus de poèmes que 100, mais qui font allusion à des personnages ou des événements poétiques précis, et qu'il serait trop long de commenter ici. Nous en mentionnerons simplement un seul, parce qu'il est très important pour comprendre les idées littéraires de Norinaga. Relevons-en simplement l'intérêt pour l'instant. Cela nous permet encore une fois de rappeler qu'un poète, au moins avant Norinaga, avait eu recours à la centurie poétique pour exprimer de façon systématique et condensée ses idées sur l'histoire. Il s'agit bien sûr de Jien, dont nous avions survolé, vous vous en souvenez, le Naniwa Hyakushu, la centurie de Naniwa, qui mêlait aussi sa vision historique avec sa doctrine religieuse et qui avait pour centre la personnalité de Shotoku Taishi. Nous avions remarqué, à l'époque, que certains poèmes de Jien reprenaient des phrases qui se trouvaient aussi dans son essai sur l'histoire, son Gukansho, ce qui démontrait l'étroit lien entre l'expression poétique et la réflexion religieuse chez le moine poète. Toute proportion gardée, nous retrouverons ce trait, la même résonance, entre les idées théologiques et théogoniques chez Norinaga et dans l'expression poétique particulière qu'il a choisie. Nous pouvons dire que Jien a tout d'abord systématisé les possibilités herméneutique des Chakyoka, des poèmes à thème bouddhique, qui étaient déjà cultivés deux siècles avant lui, afin d'en faire un instrument complémentaire de son exégèse de l'histoire. Norinaga fait de même, mais pour marquer une rupture, au moins temporaire, et pour produire un effet particulier, avec une tradition poétique qui lui semble sans doute trop entachée de pensées sinoïdes, le Karakokoro, il refuse provisoirement de se plier au modèle du waka classique, certainement trop imprégné d'influences poétiques chinoises évidentes, mais surtout moyen d'expression privilégié du bouddhisme, et pire encore, du shinto-bouddhisme, du shimbutsu-shugo, n'est-ce pas ? Et cette rupture se manifeste sous deux aspects, par le contenu d'une part et par la graphie de l'autre. Nous verrons le contenu sous peu. Mais disons tout d'abord quelques mots de l'écriture. Celle-ci est en effet étroitement liée aux idées que Norinaga souhaite transmettre. Et elle va prendre un aspect tout à fait paradoxal pour nous. C'est ici le lieu, sans doute, de redire l'importance du concept déjà évoqué au début de ce cours de hiérographie, dont nous voyons de plus en plus clairement qu'il est indissociable de celui de hiéroglossie, et en particulier au Japon. On pourrait même soutenir que ce sont les deux facettes d'un même phénomène. La centurie des précieuses hallebardes, le Tamahoko no Hyakushu, est constituée certes de waka, de facture que l'on peut appeler classique, ou plutôt traditionnelle peut-être, nous verrons dans quel sens il faut le prendre, mais par l'écriture qu'il choisit, Norinaga se resitue dans une double lignée antique. Il y a d'une part, et c'est évident, sa référence principale, ce que l'on appelle les poèmes du Kojiki et du Nihonshoki, les Kikikayo, n'est-ce pas ? Les monuments les plus anciens de la poésie japonaise, conservés dans les deux premiers ouvrages de mythologie historique. Nous l'avons déjà dit, bien qu'ayant recours à deux systèmes différents, bon, je n'insiste pas sur les deux ouvrages, le Kojiki et le Nihonshoki, transcrivent ces waka selon un principe rigoureusement phonétique, qui est celui du syllabaire japonais, qui n'apparaîtra sous sa forme définitive que bien plus tard. Donc, chaque caractère syllabique, toujours le même, transcrivant un seul phonème japonais. C'est-à-dire que le système syllabique japonais apparaît complètement formé dès le premier ouvrage attesté, ce que l'on ne remarque jamais assez. Seul le ductus, la façon d'écrire les lettres, a changé. Et en choisissant donc un système de manyogana, donc d'usage phonétique des caractères chinois, et non pas des caractères syllabiques japonais, des kana, Norinaga se situe dans la lignée des kiki, puisque la dominante est phonétique. Mais d'autre part, il évite la monotonie de ce système purement phonétique en l'agrémentant de l'emploi de caractères qui doivent être lus en lecture explicative, les kundoku, selon un procédé qui se trouve largement mis en valeur dans le manyoshu, donc qui est postérieur de au moins un siècle et demi aux deux œuvres mentionnées précédemment. Nous trouvons donc des caractères qui doivent être lus en plusieurs syllabes. Et dans le même esprit, mais selon une logique un peu différente, il utilise des caractères à première vue phonétiques qui, en réalité, insufflent un sens particulier aux mots qu'il compose, mettant en jeu toutes les dimensions de la sinoglossie au service du japonais. Nous en avons vu un exemple la dernière fois avec Michi, n'est-ce pas, la belle voix, la voix, le beau savoir, pour gloser la voix, et il va utiliser ce même procédé. On peut en avoir, on en voit un exemple ici, vous voyez, dans le manyoshu, on trouve, de même qu'on trouve Michi, comme je vous l'ai dit la dernière fois, par exemple, pour transcrire le mot amour, koi, vous vous souvenez, n'est-ce pas, koi se zumba, s'il n'y avait pas d'amour, eh bien, le manyoshu utilise les caractères kohi, kohi, c'est-à-dire la tristesse solitaire. Et donc, l'amour, c'est après se désoler tout seul. C'est-à-dire, l'amour, c'est avant tout le chagrin d'amour. Et vous voyez que, sous couvert de phonétique, on glose, en réalité, on fait un commentaire tout à fait tout à fait riche de sens grâce aux Chinois. C'est le procédé même de la langue japonaise, cette double dimension. Donc, il met en jeu toutes les dimensions de la sinoglossie au service du japonais. Alors, il n'a pas recours, enfin, évidemment, là, c'est un peu joué sur les termes, il n'a pas recours à ce que l'on appelle dans le manyoshu l'emploi baroque ou l'emploi facétieux de composer dont la lecture doit être déduite après réflexion. Ce sont presque des rébus, n'est-ce pas, comme vous avez ici le terme. Enfin, ça vient de Chine et c'est transposé en japonais, vous voyez, pour dire sortir, izu. C'est le verbe izu, n'est-ce pas? Donc, ide est l'une des formes verbales, des formes verbales composées, indéterminées, si vous voulez. Et on utilise cette vieille blague chinoise, si j'ose dire, littéralement, yamanueni mata yamaadi, sur une montagne, il y a une autre montagne, parce que lorsque vous écrivez le caractère sortir en japonais, en chinois, ça fait deux montagnes, une montagne sur l'autre. Ça fait donc le caractère shitsu. Et vous voyez que pour transcrire les deux syllabes ide, vous avez cinq caractères chinois qui sont utilisés. Je vous donne d'autres exemples après, mais ce n'est pas peine d'y insister ici. Donc, à moins que l'on inclue ces mêmes transcriptions phonétiques sémantiques comme dans Michi ou Kohi, on ne peut pas considérer que Norinaga ait recours à ces gisho ou à ces gikun, n'est-ce pas, c'est-à-dire ces lectures plaisantes, cet emploi plaisant des caractères. Donc vous avez une hiéroglossie et hiérographie simultanée. Mais en quel sens ? Pourquoi le simple recours à une langue japonaise poétique archaïsante ne suffit-il pas ? Quel besoin de la noter en caractère chinois, en kanamoji ? Ne serait-ce pas le signe révélateur d'une certaine sinophilie ou de sinomanie, c'est-à-dire les afféteries du kanagokoro, la mentalité sinisée que dénonce à longueur de page Norinaga ? Norinaga, on était certes très loin, mais en reprenant l'écriture qui est celle des furu mifumi ou mibumi, les antiques et saintes écritures, son intention était évidemment de remettre ses poèmes dans le même contexte hiérographique, et pas seulement hiéroglyphique et hiéroglossique, que ces textes fondateurs. Il y a une sorte de communion, en quelque sorte, hiérographique. Il s'agissait à la fois du Kojiki, du Nihon Shoki, mais aussi, ainsi que le montre sa volonté de ne pas se plier au strict phonétisme de ces deux œuvres, d'évoquer la graphie de l'un des livres canoniques qu'il avait inclus dans sa liste, vous vous en souvenez, le Manyoshu. Il est aussi évident que par le fond, comme partiellement par la forme, Norinaga avait l'intention de faire de cette centurie une sorte d'imitation des Norito, des prières liturgiques Shinto, dont un certain nombre nous sont parvenus sous leur forme la plus ancienne dans le Engishiki, qui reprend des textes anciens qui datent du début du IXe siècle. Si les poèmes de Norinaga peuvent faire penser à ces pièces liturgiques par leur aspect invocatoire, ils s'en éloignent cependant par la graphie, car si celle des Norito était aussi entièrement sinographique, un dispositif scripturaire distingué par leur taille, les mots racines écrits en sinogramme de taille normale, des particules grammaticales variables écrites aussi en sinogramme sur la même ligne, mais en dimension plus petite, ce qui rend le texte des Norito tout à fait reconnaissable. Et c'est ce mode d'écriture qu'on appelle Senmyogaki, que je vous donne en avant-dernière ligne ici. Mais ce à quoi nous font irrésistiblement songer ces poèmes, du moins ceux du début, mais aussi en grande partie des suivantes dans la centurie, ce sont bien sûr les Kagura Uta. Ah oui, alors je vous donne. Vous pouvez trouver une lecture japonaise. La lecture japonaise est indiquée par Norinaga, sans doute lui-même dans le manuscrit, et en tout cas par les commentaires qui commencent avec ceux de son fils. Vous les trouvez sur un site très, très, très frugal que je vous donne ici, n'est-ce pas ? cordialheart.com, Tamaboko. Donc, ça rappelle aussi les Kagura Uta, c'est-à-dire cette catégorie de poèmes dédiés spécialement aux dieux du Shinto, que l'on trouve regroupés comme genre dans les premières anthologies impériales, avant qu'ils ne cèdent la place à la rubrique plus ample des Jingika, ou bien des Jingeuta, les poèmes aux dieux, à laquelle fera pendant, on s'en souvient aussi, celle des Shakkyoka, ou poèmes sur la doctrine bouddhique. Nous ne revenons pas sur les Kagura Uta, qui accompagnaient à l'origine les danses rituelles Shinto dans les sanctuaires, et dont nous avons plus longuement parlé dans la deuxième année de nos cours. Si ce n'est pour rappeler qu'ils se caractérisent par une extrême simplicité d'expression. Les poètes qui se sont exercés à ce genre, au cours des siècles, ont toujours tenu pour règle, lorsqu'ils composaient des pièces marquées comme Kagura Uta, de renoncer à toutes les complexités, c'est vraiment les sakashira, n'est-ce pas, les afféteries, les fioritures que dénonce Norinaga, de la poésie japonaise de Heian, pour rédiger des pièces directes, faisant allusion à la situation concrète, bien que souvent supposée seulement, mais de la récitation, c'est-à-dire une situation liturgique. Nous avons montré à l'époque des exemples de Kagura Uta composés par des religieux bouddhiques, dont les poèmes bouddhiques font appel à toutes les ressources de la poésie savante, tandis que les pièces Shinto apparaissent dans tout leur dépouillement. Donc le même poète bouddhique qui va faire des poèmes sur la doctrine bouddhique extrêmement complexes par les allusions doctrinales et littéraires fera des poèmes complètement dépouillés, nus, blancs en quelque sorte, sous la rubrique Kagura Uta. Ce qui en fait d'ailleurs une sorte de poème savant au second degré. Leur dépouillement même est l'indice d'une pratique érudite. Et c'est donc à cet exercice que va se livrer Norinaga. Qu'il en ait senti le côté artificiel est évident, si l'on considère qu'il n'y sera guère livré que dans cette centurie, alors que son œuvre poétique classique est 25 fois plus abondante. Mais le choix de l'expression correspond sans nul doute à l'importance du thème qu'il décide de célébrer par ce moyen, c'est-à-dire la voix. Ici non plus, nous ne reviendrons pas sur les nombreux développements que nous avons déjà consacrés à ce que Norinaga en a écrit. Il nous faut considérer cette centurie comme la quintessence de ce qu'il pense de la voix, de sa voix, faudrait-il dire, une sorte de mise en maxime, un peu comme ce qu'a fait J.N., de ses énoncés plus longs, mais jamais, rappelons-le, satisfaisants pour qui veut chercher vraiment une définition. Vous vous souvenez du dernier cours. En habillant ses poèmes d'une hiérographie archaïque, il les remet dans la lumière de l'Antiquité, en un geste parfaitement contradictoire pour un regard extérieur, puisqu'il renonce au syllabaire propre aux Japonais afin de se recouler dans le moule sinographique. Il choisit d'ignorer cette contradiction manifeste au profit du symbole hiérographique. Il est probable aussi qu'en ayant recours à la sinographie pour exprimer sa conception de la voix, Norinaga entend se mettre sur le même plan que le seul penseur chinois avec qui il a admis, non sans réticence, quelques similitudes. Un rapprochement, c'est Lao Tzu, n'est-ce pas, son Tao Te Ching. Un rapprochement qu'il a attribué à une sorte d'inévitabilité statistique. Dans la masse des écrits accumulés dans tous les pays au cours des siècles, il se trouve forcément des rencontres fortuites qui n'impliquent aucune influence concrète. Mais enfin, cette succession de poèmes dont beaucoup se terminent sur le caractère chinois Tao, la voix, Do, ne peut évoquer que Lao Tzu pour un japonais éduqué dans la mentalité chinoise. Et Norinaga ne peut l'ignorer. À quel jeu a-t-il voulu jouer? Mais il est temps de juger sur pièce. Nous ne pourrons certes pas examiner les 100 poèmes. Contentons-nous d'abord d'un aperçu de la structure marquante du début de la centurie. Et d'abord avec le premier poème. Alors évidemment, nous n'essayerons pas de faire de la traduction littéraire et nous essayerons de lire les poèmes, de les traduire dans l'ordre des vers pour avoir une bonne idée. Nous n'essayerons pas de garder la dynamique de la syntaxe japonaise que l'on ne peut. Enfin, des traducteurs de poésie japonaise estiment qu'il faut traduire la syntaxe japonaise étant, en quelque sorte, pour simplifier, l'inverse de la française, il faudrait traduire dans l'ordre français. Mais ce n'est pas... malheureusement, il y a une dynamique, c'est-à-dire que le poète japonais commence par quelque chose et finit par quelque chose, et la fin est une découverte pour le lecteur. Si l'on inverse l'ordre, tout ce que voulait faire le poète disparaît. Ça se pose de la traduction du japonais en français, ça se pose de la même façon de la traduction des langues occidentales en japonais. Un exemple fameux et qui me surprend toujours est la traduction des psaumes de la Bible, donc chrétienne et judéo-chrétienne, du texte hébreu, en japonais. Non seulement en japonais ancien, en japonais classique, cette très belle traduction classique qui a été faite au cours du XIXe siècle pour avoir une version définitive au début du XXe siècle. Et vous savez que le premier mot des psaumes du psautier hébraïque commence par le mot « ashrei », n'est-ce pas, qui veut dire bonheur, fortune de celui qui ne suit pas la voie des méchants. Et donc, il est très important de débuter le psautier par un terme qu'on appellerait en japonais auspicieux, n'est-ce pas, Yoki Kotoba. Or, la traduction japonaise de la Bible, du psaume étant la voie des méchants qui ne suit pas celui est heureux, n'est-ce pas. Donc, on commence par Ashki. Le mal, le méchant, ce qui est le contraire d'un début auspicieux. Et je vois que même les traductions modernes de la Bible japonaise n'ont pas remédié à ce problème fondamental. Donc ici, je suis l'ordre japonais je suis l'ordre logique et dans la mesure du possible l'ordre japonais aussi, mais sans essayer de faire les acrobaties des poèmes littéraires. Alors voici d'abord le premier poème, je vous donne la transcription en dessous. Je ne m'attarderai pas à la traduction, à l'explication philologique. Bon, j'espère un jour publier une traduction complète de ce recueil avec les explications nécessaires. Alors voici le premier poème d'ouverture, et vous allez voir qu'il doit être lu comme toutes les centuries, d'ailleurs, enfin comme tous les recueils bouddhiques japonais, les recueils poétiques japonais, je vous l'ai déjà dit. Chaque poème est un poème, une œuvre en soi, mais il doit être lu dans la série, et il a un rôle dans la série. Donc ici, c'est un poème d'ouverture, et qui même syntactiquement, du point de vue de la syntaxe, doit être lu avec la suite. Voici. Donc, « Auguste esprit sacré, à l'arbre divin, Sakaki, évidemment, c'est l'arbre dont les rameaux sont brandis par les officiants lors de cérémonies shinto ou dans les danses liturgiques d'autrefois. Donc, auguste esprit sacré à l'arbre divin, grande et auguste déesse, qui éclaire de part en part le ciel et la terre. Par un amoncellement de titulatures divines désignant la déesse Amaterasu comme origine de la voix, bien que le terme de voix n'apparaisse pas dans ce poème, qui est entièrement dédié à la voix, je reviendrai dessus, à la différence des suivants, ce poème ne comporte pas de verbe. C'est la présentation nue de la déesse et en même temps... il n'y a pas de nom. C'est la présentation nue de la déesse comme origine essentielle, avant ses parents donc, et ici l'astre solaire lui-même. Si l'on prend garde au fait que les poèmes ne doivent pas être considérés isolément, mais selon leur place dans la série, ce poème constitue une invocation inaugurale. Et remarquons que dans la chronologie théogonique des poèmes du début de cette centurie, la place première donnée à Amaterasu, issue du couple Izanagi et Izanami, ce n'est pas une déesse primordiale, ne correspond pas à la théologie traditionnelle. Cela explique sans doute que Nolinaga ne la nomme pas. Il lui donnera son nom explicite au poème 6 seulement, à la place qui lui est due dans la théogonie. Mais il l'évoque ici par la mention du soleil, sans qu'il y ait d'indication de genre, bien sûr, dans la formulation japonaise. Et nous avons vu que l'identification formelle de la déesse solaire, qui ne va pas de soi au Japon, avec l'astre du jour avait été faite par Nolinaga à l'encontre de certains kokugakusha, de philologues nationalistes, si j'ose dire, qui entendaient distinguer les deux entités. L'astre solaire est en quelque sorte Amaterasu avant Amaterasu. Et nous avons évidemment ici la voix en son principe absolu, un peu comme la singularité au moment de l'explosion primordiale qui a créé l'univers. On pourrait dire que la voix est cette lumière elle-même. Le deuxième poème fait apparaître le thème essentiel. La voix de la grande divinité solaire à la sublime lumière éclairant le fait du ciel et de la terre, c'est cette voix. Vous voyez, le dernier vers, Michiwa kono michi. Une phrase nominale en quelque sorte, qui est parfaitement redondante, qui serait parfaitement redondante s'il n'y avait pas les caractères chinois. Nolinaga fait résonner ce poème avec le précédent en reprenant l'idée de l'astre qui éclaire l'univers, le ciel et la terre, sans encore nommer Amaterasu. Mais ce n'est plus une phrase nominale à caractère invocatoire comme le premier poème. Et si l'on tient compte d'ailleurs de l'enchaînement des poèmes les uns avec les autres, on pourrait considérer que le premier est apposé à la première partie du second, Hino-o-kami répondant à Hino-o-mikami. C'est une proposition à la grammaire fort simple et presque parfaitement tautologique. Cette voix est la voix. Comme nous l'avons souligné plus d'une fois, il n'y a nulle définition de la voix tentée par Nolinaga. Il se contente de la désigner. Mais ici, et nous avons peut-être aussi l'une des raisons profondes, même si ce n'est pas la principale, du choix graphique fait par le poète, la répétition du même mot en langue japonaise oralisée n'est pas du tout redondante, précisément à cause de l'écriture. En effet, en écrivant une première fois avec le caractère chinois usuel « do », puis en le répétant écrit en manyogana « michi », formant les mots surimprimés de « beau savoir », nous l'avons vu, Nolinaga se livre à un véritable autocommentaire, ou plutôt à un dévoilement herméneutique. Il déploie, pour ainsi dire, le sens du terme en le retranscrivant. Et pourtant, cette graphie ne lui est pas personnelle. Il l'emprunte au Manyoshu, où on la trouve plusieurs fois. Et bien qu'elle soit comptée parmi les graphies facétieuses, les gichos dont nous avons parlé, par les spécialistes, il nous semble qu'en ce cas précis, il faille plutôt la considérer comme un cas normal de hentaigana, ce qui serait en japonais moderne des hentaigana, c'est-à-dire des signes syllabiques aberrants, mais qui soient en écriture carrée. Puisque vous savez que la graphie cursive des syllabes mi et chi et en hiragana, donc, utilise souvent ces deux caractères, utsukushi et shiru, mais au sens entièrement phonétique. Seulement, comme ici, c'est en écriture carrée, ça, tout leur sens apparaît. Donc, ces deux signogrammes pris phonétiquement sont en même temps des signifiants, des gloses, qui ajoutent une dimension inattendue à cette voix. Inattendue, en effet, puisque la glose constitue aussi bien un autocommentaire qu'une autocontradiction. Nous avons vu à la leçon précédente que Nolinaga, afin de distinguer la voix japonaise des multiples voix académiques, Michi, Michi, Shiki, Michi, n'est-ce pas, des sages chinois et de leurs émules japonais, ces voix qui ne menaient nulle part en réalité, et insistait sur le fait que dans l'Antiquité, le mot japonais Michi, qu'il était composé en préfixe honorifique et racine ordinaire Chi, désignait tout bonnement un chemin pour se rendre quelque part, Mono ni yuku Michi. C'est donc que le terme était à prendre dans le sens le plus concret possible. Cela impliquait aussi que la langue japonaise n'avait pas besoin de la métaphore de la voix, le peuple japonais la parcourant naturellement. Mais la glose de beau savoir ou de belle sagesse, que Nolinaga accole de façon aussi étroite à ce Yamato Kotoba, à ce terme purement japonais, le situe pour le coup de plein pied dans l'univers intellectuel chinois. Savourons encore une fois le paradoxe. C'est en principe en japonisant la lecture explicative de « do » grâce à des syllabes en principe phonétiques, mais en réalité explicatives, que Nolinaga lui donne son vrai sens japonais transmis en chinois. Et un dernier mot sur la syntaxe de ce poème. En raison de la syntaxe japonaise, le syntagme « éclairant le fait du ciel et de la terre » « Ametsuchi no kiwami miterasu » peut se rapporter aussi bien à la grande divinité solaire à la sublime lumière qu'au mot voix, n'est-ce pas, Takashikano Hinokami ou bien un Michi. Et il est très probable que Norinaga ait joué sur cette ambiguïté, qui explique alors facilement la glose de beau savoir, puisqu'il porte sur l'ensemble de l'univers. On voit qu'il ne s'agit plus d'un chemin qui mène quelque part, mais bien d'une connaissance universelle concernant le ciel et la terre, ce qui rappelle bien sûr l'idée chinoise du Tao. Le troisième poème reprend la même structure grammaticale, vous voyez, cette voix, c'est la voix. Nouvelle démonstration de l'enchaînement conscient des poèmes conçus par Norinaga, et entend, par laquelle il entend définir, ou plutôt montrer la voix. Mais cette fois, il descend d'un niveau ontologique, passant du monde intégralement divin de la haute plaine céleste. Oui, je ne reviendrai pas ici sur le terme de Takamagahara, qui peut désigner soit le Japon, soit, il y a une ambiguïté topologique, qui peut désigner l'empire japonais lui-même, soit cette dimension transcendante qui est la plaine du ciel où se meuvent et agissent les dieux de la mythologie primordiale. Donc, justement, Norinaga utilise cette ambiguïté. Donc, il passe du monde intégralement divin à la lignée impériale d'essence divine, mais destinée au monde des humains. Et que nous, donc, là, je traduis ce poème. La voix reçue en transmission par l'auguste fils du ciel, comme étant la céleste lignée solaire venant du sublime trône, c'est cette voix. Nous avons déjà vu l'essentiel de ce vocabulaire déjà utilisé par Norinaga. Mais relevons qu'il fait intervenir dans sa centurie la lignée solaire, Shitsugi, c'est-à-dire la lignée impériale japonaise, issue de Nenigi no Mikoto, lui-même issu de Amaterasu. Relevons ici l'idée selon laquelle le sublime trône, Takamikura, concrètement conservé de façon plus ou moins continue au palais impérial de Kyoto et qui est encore utilisé, comme on l'a vu récemment, dans les cérémonies d'intronisation impériale, ce sublime trône, le Takamikura, a son prototype idéal dans le monde des dieux. Et aussi, il faut relever le paradoxe qui ne s'explique que par une conception du soleil comme existant avant la déesse solaire, mais étant malgré tout cette déesse selon une modalité qui échappe à l'entendement, puisque d'Amaterasu, en principe, il n'en est pas encore question. Le quatrième poème poursuit la descente étant ontologique, la procession vers notre monde, de la lignée impériale solaire au monde des hommes, toujours avec la même construction grammaticale. Vous voyez encore, Michi wa konomichi. Sous le ciel, la voie à laquelle s'en remettent jour et nuit les vertes herbes humaines, Aoshitogusa, c'est cette voie. Les vertes herbes humaines, expression qui se trouve dans le Kojiki, désigne les êtres humains, création des dieux parmi les autres éléments créés. On peut aussi le considérer comme l'équivalent de la conception chinoise de peuple, le min, n'est-ce pas, tami. On notera qu'ici est proclamé le lien entre le peuple japonais bien évidemment, et la lignée solaire, à la protection de laquelle le peuple s'en remet. C'est Mikage to Yosu. On pourrait donc comprendre que la voie pour le peuple est de s'en remettre à la voie impériale qui est toujours sans définition. Et nous remarquons qu'ici encore, le mot japonais Michi est transcrit en graphie alternée, à la différence du poème précédent, où le même sinogramme Do est utilisé dans les deux cas. Mais l'ordre est inverse de celui du poème 2. Vous remarquez, n'est-ce pas ? Michi est d'abord utilisé en phonétique, Michi, et ensuite en lecture, phonétique d'abord, explicative ensuite. Michi Do et Michi Utsukushi Kishiri. Ils croisent par rapport au poème précédent. Et il faut donc comprendre que le beau savoir du peuple est la voie. C'est-à-dire que le savoir mondain, politique, donc, c'est le Michi phonétique, s'accorde à la voie impériale, le Michi sinoglossique, qui est le Michi en quelque sorte primordial. Ainsi, Norinaga pose-t-il la lignée impériale et son rapport avec le peuple japonais avant d'aborder la généalogie divine, personnalisée, peut-on dire, de la voix. Les deux poèmes suivants, le 5 et le 6, reviennent à la théogonie, encore qu'en conservant une certaine ambiguïté. Le poème 5 est bien clair, bien qu'il pose des questions. 5, n'est-ce pas ? Ce sont les deux divinités parentes qui inaugurèrent en ce monde la voix aux hallebardes précieuses. Tamaboko no yononaka no michi. Alors, ici, vous voyez bien, vous voyez bien d'où est tiré, le titre de ce poème, n'est-ce pas ? Faut-il comprendre en ce monde, Yononaka, comme synonyme de « empire sous le ciel », Amenoshita ? Nous pouvons estimer sans trop de risque que la locution ne concerne que le Japon. C'est vrai qu'on pourrait penser au monde en général. Norinaga, vous allez le voir, ne fait pas abstraction des autres pays que le Japon. Il va en parler. Ici, l'ambiguïté existe encore. Comme nous sommes au début de la transmission, on peut penser qu'il s'agit du Japon. Et remarquons que le mot « michi » est ici accompagné du son « makura kotoba », de son mot « oreiller », en quelque sorte, de son épithète poétique. L'eau aux hallebardes précieuses, nous en avons déjà parlé il y a quelques leçons de cela, je n'y reviens pas, qui constitue le titre. Alors que c'est la seule occurrence dans cette centurie du Makura Kotoba, n'est-ce pas ? Les divinités parentes sont bien sûr Izanagi et Izanami, qui sont descendus du monde divin vers notre monde par le monde flottant du ciel, Amenoyuki Hashi, où ils créent le Japon à partir de la boue du fond de l'océan primordial. Il ramène ses gouttes de boue à la surface, à la pointe de la lance, n'est-ce pas, le hoko. Donc la lance ou la hallebarde, l'allusion est claire, le terme japonais pouvant signifier lance ou hallebarde selon les cas. La voix ne serait autre que le processus de formation du monde ici. Le poème 6 fait le lien entre cette voix désormais engagée dans le monde et la déesse qui est au centre de la piété, si j'ose dire, de Norinaga. Sous le ciel, nombreux sont les royaumes, Kuniwa Ookedo. Mais le grand royaume aux huit îles fut engendré par le dieu ancêtre, Oyashima no Kuni, n'est-ce pas ? Et le dieu ancêtre, Kamurogi. Le terme de Kamurogi, dieu ancêtre, ne doit pas être confondu avec les Mioya no Kami du poème précédent. Le plus souvent, pour Norinaga, le terme désigne Takami Musubi no Kami, nous l'avons vu, l'une des trois divinités solitaires primordiales, ces fameux Historigami, ces divinités solitaires qui sont au nombre de trois tout au début du Kojiki, et sur lesquelles on a joué à l'époque de Meiji, mais enfin, je n'en reviens pas là-dessus. Donc, mais ça désigne aussi, ce terme peut aussi désigner Amaterasu elle-même. Donc le nom, puisqu'il évoquant la puissance fécondante, on comprend pourquoi il peut s'appliquer à la déesse solaire, ici mise clairement en relation avec le Japon, le royaume aux huit îles, c'est le Japon. En prenant garde au jeu sur les nombres dans ces poèmes, vous allez voir qu'il y a 8, 180, etc., 100. Donc ce sixième poème ouvre une série de 7 poèmes, y inclut celui-ci, où le Japon, en son unicité, est mis en regard de la multiplicité des royaumes étrangers. Contentons-nous de les donner ici successivement, afin de montrer la cohérence systématique de cette centurie, dont chaque poème constitue une proposition ou une sentence. Voici donc le septième poème. L'auguste royaume, celui qui est dit auguste royaume de l'origine de la déesse du soleil, est le royaume supérieur, le royaume parent des 180 royaumes. Norinaga reconnaît donc ici, malgré tout, une certaine relation avec les autres nations, le Japon constituant l'ancêtre du monde. Momoyaso kuni no hokuni oyakuni. Le Japon est le parent du monde. Et c'est une idée qui est reprise de même dans le huitième poème. Le royaume culminant des 100 royaumes est le grand Yamato, le pays où règne notre grand souverain. Momokuni, n'est-ce pas ? Ici, nous avons 100 royaumes, qui est un indice d'une multiplicité innombrable. Et nous remarquons encore une fois l'habileté de Norinaga dans l'emploi de ce qui convient d'appeler le chinois, puisque, et ça c'est très intéressant, n'est-ce pas, on peut vraiment se poser des questions. Pour désigner O Yamato, il utilise, c'est donc le troisième vers, vous voyez, qui est composé en chinois de deux caractères seulement, vous voyez le caractère de Dai, le caractère de Wa, qu'on lit Ou Yamato, qui est la graphie, c'est presque provoquant ce vers, n'est-ce pas, puisque il utilise le terme traditionnellement utilisé par les Chinois pour désigner les Japonais, n'est-ce pas, celui de Wa, prononcé Wo en japonais, qui est glosé comme nabo, n'est-ce pas ? C'est un sens qu'il a encore en chinois moderne, quelqu'un de contrefait. Je vous ai déjà dit que pour désigner, lorsqu'il y a quelques années, on a découvert l'homme de Flores dans une île de l'Indonésie, cette créature humaine qui est de très petite taille, de 1m20, je crois, tous les journaux chinois de l'époque l'ont spontanément baptisé Wuozhen, n'est-ce pas, le nabo de l'île de Flores. C'est ce même terme. Et donc ce terme a été régulièrement utilisé par les Japonais qui écrivaient en kanbun pour désigner leur propre pays, bien qu'ils fussent conscients du caractère péjoratif de l'expression. Mais le kanagokoro, la mentalité chinoise, l'emportant, les portait à l'écrire de cette façon. On se rappellera des cours précédents que c'est le Wakan Roeshu, n'est-ce pas, les recueils de poèmes dignes d'être psalmodiés, les poèmes chinois et japonais, ce recueil de 1013 qui a entériné en quelque sorte l'usage du caractère homophone de harmonie, n'est-ce pas, le wa de Daiwa, qui est infiniment plus gratifiant, pour désigner le Japon. C'est un usage d'ailleurs qui n'est jamais passé en langue chinoise. Contrairement à l'appellation de Nihon, n'est-ce pas, Jiben en Chine, qui s'est propagé en chinois. Donc, faut-il voir un humour sombre de la part de Norinaga dans cet emploi répété à 4 reprises dans la centurie de ce poème, de ce caractère dépréciatif, ou simplement le souci d'archaïsme de l'expression hiérographique qui ramène à ce contre-emploi paradoxal? On pourrait dire aussi qu'il utilise ici ce caractère chinois en tant qu'appellation internationale du Japon. Il sait bien que s'il écrivait « Daiwa », il ne serait pas compris hors du Japon. Donc il utilise le mot, l'appellation en quelque sorte cosmopolite du Japon. Le 9e poème est un éloge redondant du Japon et de son souverain, le super royaume parmi les royaumes, n'est-ce pas ? Kuni no Mahokuni, nous avons vu tout à l'heure Hokuni Oyakuni, n'est-ce pas, le dernier vers. Ici, nous avons une appellation encore plus forte de Hokuni, Mahokuni, le pays vraiment supérieur. Donc, combien est vénérable l'auguste royaume où règne notre souverain, royaume comblé, royaume serein, royaume supérieur au royaume. Vous savez ici, n'est-ce pas, Umashikuni, Urayasu no kuni. Et le 10e poème renforce le poème précédent en chiffrant le nombre des royaumes. Encore une fois, Momoyasoto kuni wa aretomo. Des royaumes, il y en a certes 180, mais nul qui soit supérieur au royaume de Yamato, qui est l'origine du soleil. Vous avez donc Hinomoto no kore no Yamatoni. Remarquons encore une fois que dans ce poème, Yamato écrit avec le caractère chinois dépréciatif wa, wo, n'est-ce pas, immédiatement préglosé par la locution Hinomoto, origine du soleil, qui est bien sûr la lecture explicative du mot japonais Nihon, Nippon. Et vous voyez que vous avez ici, donc, dans le troisième vers, vous avez Hinomoto no, il suffit d'enlever le no pour avoir Himoto, c'est-à-dire Nihon, le nom du Japon, et dans le vers qui suit, vous avez l'avant-dernier caractère qui est Yamato, qui est le pays des nains, n'est-ce pas, le pays des nains difformes. Donc, vous avez encore une fois une glose Hinomoto qui annule le caractère péjoratif de la graphie chinoise, et encore une fois, dans un contexte internationalisant. Donc, vous voyez, il parle des royaumes, des 180 royaumes. Et donc Yamato, employé avec ce caractère wa, est bien le caractère international. Et le 11e poème est une dernière proclamation universelle. Quand bien même on aurait cherché jusqu'aux confins extrêmes de l'univers, Ametsuchi encore, y aurait-il un bon royaume supérieur à notre auguste royaume ? Le fait que le mot voix n'apparaisse pas dans cette mini-série que je viens de vous énumérer, prolongeant le cinquième poème, signifie tout simplement qu'ils sont la description, ces poèmes, de la voix elle-même. C'est parce que l'empire japonais l'incarne, si l'on peut le dire, qu'il n'est pas besoin de la mentionner. La voix, c'est le Japon même. Dans l'impossibilité de tout citer, heureusement, vous allez me dire, nous donnerons seulement ici quelques poèmes caractéristiques où l'on retrouvera des échos de pages lues par ailleurs. Et tout d'abord, dans les poèmes 14 et 15, Nolinaga revient sur cette idée qui lui est chère. La continuité de la lignée solaire impériale, signe de la pérennité de la voix, à l'encontre des dynasties continentales changeantes, reprenant tour à tour le mandat du ciel. Vraiment, c'est l'idée d'impermanence, n'est-ce pas, de Mujo, qui n'est pas... c'est valable, elle est tout à fait indéniable dans le monde, sauf en ce qui concerne le Japon. Le Japon, c'est vraiment Makoto, n'est-ce pas, le pays réel, par opposition aux autres pays dont les gouvernements sont changeants. Poème 14. Mono minawa kawari yukedomo, c'est bouddhiste pratiquement. Bien que toute chose soit appelée à changer, de ce Dieu réellement présent, Akitsukami, de notre grand Dieu, l'auguste règne, est pour l'éternité. Miyowa tokoshi, wanga okami no miyowa tokoshi. Vous avez donc ce qui est impermanent d'un côté, ce qui est éternel, permanent de l'autre. Le terme mono peut certes signifier les choses ou les êtres, mais il doit être pris dans le sens général de tout ce qui relève de l'ordre naturel, le bambutsu, pour lequel la meilleure traduction serait sans doute celle de sa nuance bouddhique, les phénomènes, puisque l'on voit que c'est le système impérial qui est ici évoqué. L'idée de la présence réelle, si l'on peut permettre ce rapprochement, du Dieu oppose la réalité au phénoménal, le makoto au kari. Nous avons le vieux couple bouddhique, n'est-ce pas, que nous avons vu propagé par la pensée du Tendai dans tout le Japon médiéval, qui est repris ici sous des habits purement japonais et qui oppose le Minori Makoto du Sutra du Lotus devient la voix Makoto no Michi de la lignée impériale. Et le poème suivant, encore une fois, ne fait que renforcer l'idée de l'éternelle sainteté impériale. Kunigunino, la diversité des pays, bien que les souverains des divers royaumes changent, encore une fois, kawarei domo. Et bon, je n'insiste pas sur il faudra insister sur l'emploi des caractères que fait Nolinaga. Vous voyez qu'il change les deux caractères chinois pour kawaru sont changés. Le premier, vous avez hen, et ici vous avez i, n'est-ce pas ? Mais je reviendrai là-dessus par ailleurs. Bien que les souverains des divers royaumes changent, de notre auguste fils du ciel, brillant dans les hauteurs, l'auguste règne ne change pas. La lignée royale japonaise, donc, défie le phénoménal, tandis que la pérennité du souverain japonais est un éternel contraste avec les dynasties qui se succèdent indéfiniment en Chine et sur le continent en général. Cette conception de la singularité du Japon se manifeste bien sûr dans le caractère unique de la voix, qui est sa voix, et nombre de poèmes le soulignent. Donnons-en deux, dont le premier, si nous le comprenons bien, est relativement étonnant, puisqu'il souligne que la Chine elle-même, malgré sa chute dans la scolastique, demeure encore dans la lumière de la voix japonaise. C'est ce poème 18 de la Centurie. Alors, nous revenons encore une fois sur cette idée de Kotohage. Bien qu'on y profère des énoncés pleins d'argutie, Sakashirani Kotohage wa Suredo, la Chine aussi, Karakunimo, est, sous-entendu, dans le royaume éclairé par la déesse de la lumière. Shinume no kami no terasu kunuchi wo. Ici encore, une proposition nominale, avec une allusion riche de sens au célèbre poème du Manyoshu de Kakinomoto Hitomaro, où apparaît le terme crucial de Kotodama comme complément de l'allocution. C'est assez long à expliquer. Je pense que j'en ai déjà parlé, je n'y reviendrai pas. Mais vous voyez que dans ce poème de Kakinomoto no Hitomaro, un poème qui a aussi un renvoi, donc vous avez dans ce pays, dans cette plaine, cette riche plaine des joncs, n'est-ce pas, Ashihara no Mizuho no Kuniwa, Kamunagara, étant essentiellement conforme aux dieux, n'est-ce pas, vous vous souvenez, Kotohage wa senu, c'est un pays où l'on n'a pas besoin d'élever la voix. Je reviendrai sur ce terme un peu plus. Shikare domo, Kotohage zo wa ngasuru, mais moi j'élèverai la voix pour vous souhaiter bon voyage, n'est-ce pas. Et l'envoi dit, Yamato no kuni wa, Kotodama no tasukuru kunizo. Ce pays du Japon est un pays où le fait, l'efficacité, l'esprit des mots, n'est-ce pas, la force qu'il y a dans les mots est efficace. Tasuku peut nous venir en aide. Et de ce fait même, votre voyage sera auspicieux. Masakiku alikoso. Ce n'est pas la peine de le dire pour que le voyage se passe bien, puisque le fait même d'y faire allusion le réalisera, n'est-ce pas. Et donc, notre Norinaga se repose sur ce poème pour le développer. Au Japon, on n'élève pas la voix pour faire des invocations, des souhaits, des prières, mais là, il utilise dans son sens à lui, Sakashira, et c'est faire des Sakashira ni Kotohage, c'est faire des disputations, j'allais dire des disputations spécieuses qui sont le contraire de ce que valent les mots au Japon. Donc cela est bien paradoxal, puisque ce devrait être un concept central de la hiéroglossie japonaise, mais nous voyons qu'ici, il est appliqué à la Chine, cette espèce de puissance de la parole. Le terme apparaît seulement une fois dans la centurie. Et d'ailleurs, je vais vous le donner dès maintenant, parce que vous allez voir, je reviendrai dessus dans la conclusion, mais comment justement Norinaga utilise ce terme de Kotodama dans un sens tout à fait particulier. C'est le poème 102, donc il n'est pas dans la... Il fait partie des Amari Uta, n'est-ce pas, des poèmes supplémentaires de la centurie. Omou koto utaeba naginu kotodama no saki wa ushirushi masashi karikeni. Vous voyez qu'il utilise des mots tirés des poèmes du Manyoshu, mais voici ce qu'il en donne. Les pensées qui nous tourmentent, c'est pas omou koto, ce sont les pensées amoureuses aussi. Utaeba naginu, mises en poème, une fois qu'elles sont mises en poème sous forme poétique, naginu s'apaise. Les pensées qui nous tourmentent, mises en poème, s'apaisent. Shirushi, mise en preuve certaine de l'heureuse efficace de l'esprit de la parole. Vous voyez comme ce poème est extraordinaire pour comprendre le sens que donne Norinaga à Kotodama. Donc, je répète la traduction. Les pensées qui nous tourmentent, mises en poème, s'apaisent, en preuve certaine de l'heureuse efficace de l'esprit de la parole. Kotodama no saki wa ushirushi. on voit que Norinaga, ici, ramène le terme de Kotodama en un mouvement qui rappelle sa réinterprétation du Mono no Aware, et vous vous souvenez du poème que nous avions vu, récemment sur du poème de Shunze, n'est-ce pas, où le Mono no Aware est utilisé pour exprimer le sentiment amoureux. Donc, c'est le même mouvement. Le Kotodama est ramené à une réalité plus littéraire que magique. La preuve de l'efficacité miraculeuse de Shirushi est que le poème, l'acte de langage par excellence, agit immédiatement sur l'esprit tourmenté. Mais ce qui nous arrêtera ici est l'usage de la locution affirmative qu'il fait de Kotoage, qui est au négatif dans le poème source, alors qu'il le transfère au positif au monde chinois. Si le Japon est le pays où l'on n'élève pas la voix, ainsi que le dit le Manyoshu, la Chine l'est bel et bien. Et ainsi que nous l'avons vu à plusieurs reprises, ici encore, Norinaga choisit de prendre Kotoage-su dans une acception qui lui est propre, alors que le sens ancien semble bien avoir été d'élever la voix afin de proférer une formule, une prière ou un vœu, tant la parole efficace est à manier avec précaution, c'est presque une indication de tabou. Norinaga le prend comme signifiant élever la voix pour formuler un énoncé, une proposition, une démonstration, pour entrer dans une discussion. Et le Japon, ainsi que le dit l'envoi du poème cité plus haut, est soutenu par l'esprit de la parole, par la parole efficace. Kotodama no tasukuru kunizo. L'élévation de la voix, donc, qui est kriyairi et argusi, indigne de la voix du Japon, est pratique courante en Chine. Voix VOX et VOIE, vous voyez, sont tout à fait se superposent. Mais ce pays reste malgré tout dans la lumière universelle d'Amaterasu, ce qui permet à Norinaga d'utiliser le chinois comme herméneutique du japonais. Ainsi, en changeant de négatif en affirmatif le mode du verbe, Norinaga contraste autant qu'il est possible les deux royaumes. La Chine est un pays où l'on élève la voix pour proférer des arguties académiques qui sont le contraire de la vraie voix, VOIE. Pour mettre davantage en contraste les deux traditions telles que les conçoit Norinaga, mettons en parallèle deux poèmes qui utilisent la même métaphore, celle du miroir. Et nous entrons encore une fois dans un... Oui, je voulais aussi vous renvoyer dans tout cela à la fois à la thèse de M. Ignacio Quiros, qui sera publiée, j'espère, bientôt dans l'École pratique des hautes études, sans ses fonctions de koto dans le Japon archaïque, et l'article très intéressant dans La Rocher qui va bientôt paraître dans le tome 2 de nos colloques sur la hiéroglossie, qui devrait paraître, je pense, à l'automne, dans la bibliothèque de l'Institut des hautes études japonaises du Collège de France. Mais alors, revenons à deux poèmes qui se font suite, n'est-ce pas, et qui utilisent la même métaphore. Si vous vous souvenez de poèmes précédents, tous ces mots-là ont été vus dans des contextes bouddhiques. Contemplez bien le reflet de l'Antiquité. Le livre des faits anciens, vieux comme les pierres, en est le miroir immaculé. Ici, le miroir est utilisé dans un sens universel, métaphore du livre qui reflète un contenu. Dans le Kojiki se reflète le Inishie no Michi, la voie de l'Antiquité, dont nous allons voir quelle est la vraie voie. Et dans ce poème 27, en revanche, le miroir est moins immaculé. Si vous voulez contempler le pur miroir, la poussière des idées chinoises l'a embué, l'a terni. Il sera bon de le polir. Dans ce poème, le terme maso kagami, répond à Masomi du poème 24 précédent, n'est-ce pas ? Vous avez ici Masomi no Kagami et vous avez là Maso Kagami. Vous pouvez dire aussi Masu Kagami, Masomi no Kagami. Et nous avons bien donc l'idée d'un miroir originellement sans tache, mais sur cette pureté originelle est venue se déposer la couche de poussière des idées chinoises. Il convient donc de le polir pour le ramener à son état primordial. Évidemment, tout le monde aura reconnu ici l'écho du célèbre dialogue du Chan chinois entre Shanxiu et Huineng, n'est-ce pas, Xinxiu et Eno. Ce sont des poèmes tellement connus que je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, Shanxiu disant que le corps est l'arbre de la bodhi, alors que le cœur, le mens, n'est-ce pas, est un miroir clair. Il faut bien nettoyer le miroir régulièrement pour ne pas laisser la poussière s'y accumuler. Ce à quoi Huineng transcende en disant la bodhi, l'éveil, donc, n'a originellement pas d'arbre pour la porter, pour la favoriser, et quant au miroir, ce n'est pas, il ne relève pas d'un support physique. Il n'y a pas un seul phénomène mono existant originellement sur quoi pourrait donc se poser la poussière. Alors vous voyez bien que Norinaga se refuse d'aller jusqu'à l'interprétation zen de ce poème, de cet échange qu'il connaît bien sûr. Pour lui, le pur miroir, c'est celui du Kojiki. Donc, il prend un plaisir sardonique, en quelque sorte, Norinaga, à reprendre le quatrain de Shunshio. Et c'est le Meikyo, vous voyez, Akira Kanaru Kagami, c'est Masu Kagami du poème japonais, et celui-là seulement, car on comprend dès lors que la réponse de Huineng est pour lui le modèle même de la poussière des argusies chinoises, Kanagoto no Chili, qui ont bu le miroir originel. Ces jeux de mots, le miroir n'existait pas, ça n'amuse pas du tout Norinaga, n'est-ce pas ? Et encore une fois, donc, nous le voyons détourner des concepts chinois pour venir étayer sa philosophie, non seulement chinois, mais bouddhique, pour venir étayer sa philologie japonaise. Il sera inutile de rappeler ici que le miroir est l'un des trois attributs sacrés impériaux, évidemment. Il ne va pas dire qu'il n'existe pas. Donnons simplement le poème 68 comme exemple des poèmes des poussières continentales que nous connaissons bien par ailleurs. Parce qu'il est très explicite, n'est-ce pas, et donc d'autant moins poétique. Les Shakyamuni, les Confucius sont peut-être des dieux. Leurs voies ne sont que chemin de traverse, Edamichi, Michi no Edamichi, de la vaste voie des divinités. Shirokeki kami no Michi no Edamichi. Bouddhisme et confucianisme sont des chemins qui ne mènent nulle part, nous le savions, et il est piquant de voir Norinaga, qui donne ici des noms propres, ce qui en fait un poème qui n'est pas très heureux, donner comme prononciation au nom de Confucius, comme les Fuligana l'indiquent, il ne dit pas « Koshi » comme on le dit à son époque, mais il prend la vieille lecture « Ondoku », d'ailleurs une lecture qui résonne comme bouddhique, de « Kuji » au lieu de « Koshi ». Là aussi, c'est un trait d'humour sardonique de Norinaga. Mais voyons, pour conclure, les trois poèmes où Norinaga désigne la voix comme étant la voix réelle, ou vraie, ou véritable, encore une fois, Makoto no Michi. Les trois occurrences de Makoto sont à chaque fois transcrites en caractères différents, encore une fois bien typiques de cette possibilité herméneutique du chinois. Comme si l'auteur voulait présenter les principales nuances qu'il avait à l'esprit. Voyons-les dans l'ordre d'apparition. Et tout d'abord, un couple des poèmes, les 22 et 23, où bien que la locution Makoto no Michi ne soit reprise que sous la forme Makoto no Koto dans le poème 23, la proximité de l'occurrence nous invite à les considérer ensemble. La première, donc, c'est bien parce que les traditions de l'âge des dieux manquent dans les pays étrangers qu'ils ignorent la voie véritable. Et c'est Tsutae et Makoto no Michi. Notez ici qu'avec le sinogramme Sei, Makoto est noté par Sei au début de l'avant-dernier vers, Makoto no Michi, wo. C'est la nuance morale et sociale qui est accentuée. La fidélité au souverain, moralité dans la société et les rapports familiaux. La société japonaise, donc, est plus morale, même dans les faits, que celle des pays étrangers. Mais la nuance apportée par le poème qui suit est primordiale, et l'on s'étonne presque de voir que Norinaga la fasse intervenir si discrètement. Vous avez ici Makoto no Koto. Chaque royaume a sa tradition, mais au pays de l'origine du soleil s'est transmis le discours réel de l'origine. Shinomoto ni Moto no Makoto no Koto. Wa tsutawaru. La locution « moto no makoto no koto » est d'une richesse singulière si l'on tient compte des sinogrammes. « Makoto » est écrit ici avec le caractère « jitsu », le caractère chinois « jitsu », comme cela se trouve très souvent dans les poèmes bouddhiques japonais, où le mot japonais transpose souvent en langage poétique le jitsu des textes scripturaires. J'en ai déjà parlé, makoto jitsu, c'est la voie bouddhique. C'est donc la réalité opposée à tout ce qui est phénoménal. Mais nous le savons, makoto peut s'entendre aussi comme chose vraie, ou plutôt fait réel, opposé à ce qui est imaginaire, ou parole réelle, parole vraie. Si bien que le mot suivant, koto, ici, qui est écrit makoto no koto avec setsu, le premier caractère du dernier vers, noté avec le sinogramme setsu, ce qui veut dire discours et idée, que Norinaga lit soit makoto, soit tokigoto, c'est-à-dire ce qui est idée exposée, que l'on pourrait traduire aussi par théorie, apparaît donc comme une glose soulignant la nuance de parole vraie de makoto. Le Japon est donc à plusieurs reprises à titre le pays de l'origine, bien que ces divers titres n'en fassent qu'un. Origine du soleil, de la parole et du discours, koto, tokigoto, sur la voie, makoto no michi. Donc ce couple est très important pour comprendre cette idée. Et enfin, le poème 81, dernière occurrence, où la graphie est neutre puisqu'il emploie des mots kami no makoto, vous voyez l'avant-dernier vers, trois caractères syllabiques dont on ne peut pas faire de sens, on ne peut pas tirer de sens, qui sont employés le plus souvent comme phonétiques. Donc il ne veut pas imposer, il ne veut pas donner de nuance au makoto ici. Il l'emploie donc dans sa pureté japonaise en quelque sorte. D'une façon ou d'une autre, ne pas s'opposer à l'auguste loi de l'époque, toki no minori, ni somukanu koto, n'est-ce pas ? C'est bien la voie véritable des divinités. En prenant des caractères purement phonétiques, Norinaga laisse le lecteur libre de décider du sens. Mais nous ne pouvons que remarquer avec intérêt la proximité de ce poème maxime avec les injonctions de Tominaga Nakamoto que nous avions vues à la leçon précédente sur la nécessité de suivre une voie véritable, Nakamoto utilisait le caractère C, qui soit moderne. Il semble qu'il s'agisse ici de la même idée. Mais cela implique-t-il que l'on suive à l'époque de Norinaga les lois du shogunat ? Ce serait à d'autres de trancher. Mais encore une fois, on ne peut ignorer les rapports qui se lisent clairement dans les textes entre certaines idées de Tominaga Nakamoto et Norinaga. C'est donc sur ces notions, non pas ambiguës, mais fort riches de makoto, que repose pour Norinaga la voie japonaise. On n'en serait pas plus avancé pour autant si nous devions en rester là. Mais nous voyons, et tout spécialement dans la hiérographie de cette centurie, une orientation de la voie qui est paradoxalement constituée entièrement du discours qu'il a dit. Et c'est en ce sens qu'il faut prendre makoto, la parole vraie. Et nous en examinerons les conséquences dans la conclusion à venir. Je vous remercie pour aujourd'hui.